Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour, bienvenue dans Univox, le rendez-vous hebdomadaire des mouvements jeunes et citoyens propulsés par le réseau Radio Campus France. Les Radio Campus scannent en permanence les initiatives étudiantes et tendent chaque semaine leur micro aux étudiants, citoyens, habitants et activistes des villes et campus de France. Univox, c'est une radiographie bouillonnante et itinérante de l'écosystème étudiant. En partenariat avec AnimaFac et Pépite France, nous avons imaginé Univox Impact, une série spéciale autour des étudiants et étudiantes qui entreprennent. Dans leur localité et auprès du public, ils et elles tentent de porter des projets qui impacteront les territoires et politiques publiques.
Univox.
Au travers de ce cinquième et dernier épisode réalisé par Radio Pulsar à Poitiers, l'idée est d'évaluer l'impact des projets. Les structures de l'économie sociale et solidaire ont pour objectif principal de créer de la valeur sociale. Elles défendent le fait que leur performance ne se réduit pas à leurs résultats financiers et que les effets se font sentir sur un temps long. Pour réfléchir à cette question, nous avons rencontré deux associations accompagnées par Pépite et AnimaFac. Transmission 86, qui a pour objectif de sensibiliser sur le sujet de la transidentité et d'apporter de l'aide aux personnes transgenres dans la Vienne, représentée par l'un de ses membres, Jonathan, et l'Atelier du Soleil et du Vent, qui propose des stages d'autoconstruction bois et métal et d'énergie renouvelable. Rendons-nous d'abord sur place, à Lusignan, à la rencontre de Florent Dupont, son président.
Univox. Univox.
En fait, l'Atelier du Soleil et du Vent, c'est un lieu de partage, à la fois dans le partage de matériel, dans le partage de lieux. Donc là, on voit bien, on a un atelier bois qui est partagé, il y a un atelier métal qui est partagé. Et après, c'est aussi un lieu de partage de savoir-faire et de connaissances, et notamment par les formations que l'on donne, quoi. Donc là, par exemple, Manu, c'est le formateur sur tout ce qui est tournage sur bois. Et moi, je suis plutôt formateur sur tout ce qui est énergie renouvelable. Mais ça, c'est qu'un échantillon, on a un vaste catalogue. On fait de la formation sur l'usage du bois, le travail du bois. On fait des formations sur le travail du métal. On fait des formations sur comment poser ses panneaux solaires soi-même, construire son éolienne, construire sa remorque à vélo, voilà.
Bonjour, moi c'est Manu. Je suis à l'Atelier du Soleil et du Vent depuis un an à peu près. Je suis arrivé là parce que je tourne du bois et que j'avais envie d'apprendre à utiliser les machines à bois pour voilà, bricoler à la maison. Puis je suis un peu en transition professionnelle, donc c'est ça qui m'intéressait. Et donc à l'association, moi je propose des formations de tournage sur bois. Là cette semaine, je propose aussi une semaine de chantier jeune avec les jeunes de l'accueil jeune de Lusignan qui viennent fabriquer des meubles ici que j'encadre. Et puis, voilà, je réfléchis avec les copains de l'asso à comment l'association elle est organisée, gérée. Je fais la commission formation aussi avec Florent. Voilà, bien actif. Alors là, j'ai rencontré un couple de jeunes qui peignent des figurines et qui ont besoin d'un support pour mettre leur pot de peinture. Donc voilà, je suis en train de faire des trous, 80 trous dans une planche de bois.
Si on se balade dans l'atelier, et là on a la deuxième partie de l'atelier qui est l'atelier métal. Il y a tous les équipements nécessaires pour travailler le métal et le bois. Et quand je dis que c'est un lieu de partage, c'est aussi un lieu de partage entre les particuliers et les professionnels qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un atelier tout équipé. Donc c'est un peu un espace de coworking, si on veut utiliser un mot à la mode, dans l'artisanat, quoi. Alors le lieu, il s'est fait petit à petit. L'association, elle a 11 ans d'existence. Petit à petit, c'est moi qui suis à l'initiative de cette association. Et quand on est arrivé sur Lusignan, on nous a donné ce lieu, prêté ce lieu. Et au fur et à mesure, on l'a aménagé en fonction des gens qui y sont, quoi. C'est un peu comme l'auberge espagnole, c'est en fonction de l'énergie de chacun, que le lieu s'aménage et se bonifie, quoi. Bon, ça, c'est pas une autre réalisation, mais ça, support de formation. Donc, c'est une fausse toiture. Et comme ça, les stagiaires, ils apprennent à vraiment, en cas concret, à poser les panneaux sur la toiture. Et comme ça, ils peuvent le répliquer chez eux, quoi, sur leur toiture chez eux.
Et toi, tu as été formé comment ?
Moi, j'ai une formation longue d'ingénieur au départ en énergie renouvelable. Et donc d'abord aéronautique, j'étais à l'ANSMA à Poitiers, quoi. Mais ça m'intéressait jamais les avions et encore pire l'armement dans ce genre d'école. Donc je me suis très vite orienté vers tout ce qui est énergie renouvelable. Et j'ai fait un master européen en énergie renouvelable suite à l'école d'ingénieur. Et après, j'ai travaillé un petit peu en tant qu'ingénieur dans la recherche dans le photovoltaïque, dans l'entreprise Steel qui est sur le campus à Poitiers. Et après, à 30 ans, je me suis dit, il faut que je fasse mon projet perso, sinon je le ferai jamais. Et donc je me suis engagé à temps complet sur le projet de l'atelier du soleil et du vent pendant plusieurs années, 3-4 ans. Et au bout d'un moment, je voyais que j'arriverais pas à me rémunérer sur cette activité-là. Parce qu'on était un peu en avance de phase. Aujourd'hui, on a un salarié à l'atelier Soleil du Vent. C'est pas moi, parce que du coup, j'ai changé de projet entre-temps. Et donc, il y a 6 ans, j'ai passé un CAP en candidat libre de chauffagiste. Et j'ai créé mon entreprise artisanale d'installation de systèmes d'énergie renouvelable. Quoi. Du coup, on s'est rendu compte, en faisant un bilan de l'atelier, c'est que en fait, beaucoup de stagiaires particuliers qui viennent à nos formations, et ben, après, on s'engage dans des formations professionnelles pour devenir artisan. Donc moi, je suis le premier. Donc moi, j'ai pas fait une formation professionnelle. J'ai fait un peu en hold-up et je suis passé en candidat libre. Mais sinon, il y a plusieurs menuisiers qui, suite à l'atelier du soleil et du vent, ont passé une formation. Et menuisiers et menuisières, d'ailleurs, ont passé une formation pour devenir menuisiers et menuisières. Et aujourd'hui, sont menuisiers et menuisières. Mais il y a aussi les menuisiers métalliques et du coup on se rend compte que notre atelier suscite des vocations en fait et c'est chouette, on est content de ça.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Florent Dupont évoque déjà l'un des premiers impacts de l'atelier du soleil et du vent, susciter des vocations. Mais avant de poursuivre sur cette question, découvrons ensemble Transmission 86 et notre second invité du jour.
C'est une association qui est née il y a 3 ans à peu près. Et j'étais pas là à ce moment-là. Mais l'idée dès le départ, c'était de faire une association par et pour les personnes trans, à la fois pour créer du soutien pour ces personnes-là, un soutien moral ou physique, peu importe, et aussi de les soutenir plus indirectement parce qu'on fait aussi beaucoup de sensibilisation. Du coup, on donne des formations, on fait de la sensibilisation sur les réseaux sociaux afin que leur vie soit plus facile aussi. Et depuis la création de l'association, ça s'est pas mal développé et diversifié. Sachant qu'au début, c'était pendant le Covid, donc c'était plutôt restreint les possibilités d'action. Moi, je m'appelle Jonathan. Et j'ai rejoint l'association il y a 2 ans parce que je suis une personne trans et que je souhaitais rencontrer d'autres personnes trans et que c'était une cause qui me tenait à cœur, notamment parce que je suis directement concernée. C'était important pour moi aussi d'aider d'autres personnes que moi qui soit étaient dans la même situation, soit dans des situations parfois pires.
Quelles sont les actions que vous avez déjà pu mettre en place ?
On a accompagné beaucoup de personnes trans ou de personnes en questionnement, ainsi que leur famille, de pas mal de façons différentes, mais la façon la plus récurrente, c'est une personne en questionnement qui nous envoie un mail ou un message et qui dit « Au secours, je sais pas ce qui m'arrive ». Et donc nous, on dit « Bah, ne t'inquiète pas, tout va bien ». Mais parfois, c'est aussi des soutiens plus redirigés vers des structures ou sortir des personnes de certaines structures, dans certains cas. Donc on a fait ça, on a aussi créé des jeux. On a créé le Transphobie Garou, qui est un loup-garou, mais où les loups, c'est des personnes transphobes. On a créé le Molki des préjugés et aussi un quiz. Donc tous ces jeux ont vocation à être à la fois des supports pour le divertissement, mais aussi pour la pédagogie, surtout le quiz Bon, le Moltke des préjugés aussi, en fait, mais c'est vraiment des supports qu'on utilise nous-mêmes, parfois dans nos formations, pour rendre beaucoup plus interactif ce qu'on peut raconter et que les gens puissent s'approprier les idées qu'on essaye de transmettre. Donc on a fait ça. Après, on a fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux aussi, beaucoup de posts, soit avec des définitions pour aider les gens à suivre ce qui se passe au niveau des termes, soit des choses au niveau de l'histoire, de la transidentité, dans le sens les différentes personnes trans qu'il y a pu y avoir, mais aussi ce qui se passe en ce moment, quand il y a une personne trans célèbre qui réussit à faire quelque chose qui n'était pas possible avant pour les personnes trans, par exemple. Parfois, on en parle. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On donne pas mal de formations. Ah oui, si, bah oui, un projet que j'ai mené, je suis en train de chercher des projets, mais un truc que je fais toutes les semaines, la dinette LGBTQIA+. Alors ça, c'est un projet que j'ai créé moi-même, avec de l'aide à différents moments de différentes personnes, mais je suis un peu la seule personne à l'avoir tenu depuis le début et à être toujours dessus. Et donc ça, c'est pas spécifiquement pour les personnes trans, ça c'est pour toute la communauté LGBTQIA+. Et c'est tous les mercredis à 17h à l'envers du bocal à Poitiers. L'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu où des personnes soient concernées, soit en questionnement, puissent se rencontrer, se retrouver et simplement prendre un thé ensemble et pas nécessairement avec un but, juste pour être bien le temps d'une après-midi ensemble.
Revenons à vous, Florent Dupont. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être une entreprise de l'économie sociale et solidaire ?
Pour moi, en fait, économie sociale et solidaire, déjà, en fait, de fait, ça devrait être quasiment une tautologie, en fait. Parce qu'une économie sans sociale, sans solidaire, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. De fait, dès qu'on a une activité économique, en fait, moi, que ce soit avec l'atelier du soleil et du vent ou que ce soit avec mon entreprise par la suite, j'ai toujours été attentif à ces dimensions-là parce que ce qui change aussi, c'est aussi sur le support que l'on utilise, les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, elles sont intéressantes parce que, elles, à condition qu'elles soient faites dans le sens qu'on essaye de le faire, c'est qu'elles elles sont directement en lien avec le consommateur. Donc quand on installe des panneaux solaires sur les toits d'une maison, c'est directement en lien avec les besoins de consommation de la personne. Et donc du coup, c'est aussi le côté social, en fait, dans le sens où du coup, on essaye de faire prendre conscience aux gens, en fait, de l'énergie qu'ils consomment, en fait. Et donc ça, c'est vraiment le côté social. Et que ce soit un habitant français qui a une piscine chez lui et qui ne se rend pas du tout compte de l'énergie, de l'impact environnemental qu'il a, ou à l'extrême inverse, du coup, on a eu un projet au Pérou où ils avaient besoin d'énergie pour torréfier le café. Et du coup, suite à nos projets, il y a des projets qui ont émané au fait de notre atelier du soleil et du vent, où il y a une entreprise qui a été créée au Pérou pour la torréfaction du café. Donc c'est ça le côté social, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la technologie. Il faut qu'il y ait un lien social, la technologie, et qu'elle réponde à un besoin social.
Avez-vous déjà essayé d'évaluer l'impact de votre association ?
Quel est notre impact social de notre action ? Forcément, on se le pose tous les jours. Déjà, le nombre de réalisations qui sont faites, notre impact, en fait, il est dérisoire. En tout cas, à l'échelle de l'atelier du soleil et du vent, il est dérisoire. On essaye de faire le mieux qu'on peut. Mais le rouleau compresseur de notre monde fait que notre association a un impact dérisoire. Alors après, on touche de plus en plus de personnes. Ça, c'est vrai. Avant, on avait du mal à remplir nos formations. Maintenant, toutes nos formations sont remplies. Et même, du coup, des fois, on refuse des gens parce qu'il y a de plus en plus de personnes. Donc, en fait, on pourrait se dire que c'est bénéfique. Mais en fait, il faut verra. C'est difficile à dire. À quantifier notre impact.
Nous, Transmission 86, au début de l'association, il y a eu un sondage qui a été lancé, qui n'était pas que pour les personnes concernées, c'était à peu près pour tout le monde, qui posait des questions sur qu'est-ce que vous savez de ce terme-là, etc., pour qu'on mesure quels étaient les besoins et qu'on essaie de cibler nos actions sur des choses qui seraient vraiment pertinentes. Mais depuis, on n'a pas fait d'autres sondages pour voir s'il y avait eu une évolution, parce que en fait, c'est difficile à mesurer. Et aussi, on n'est pas les seules personnes qui font évoluer les choses. Donc si on faisait le même sondage avec les mêmes questions, peut-être qu'on aurait des résultats différents, mais on ne pourrait pas dire que c'est uniquement grâce à nous. Et je trouve que notre impact, il est difficile à mesurer parce qu'il n'est pas tant quantitatif que qualitatif. Déjà, si on a une personne qui nous contacte et qui est complètement perdue et qu'on arrive à répondre à certaines de ses questions et à rassurer cette personne, ou alors si c'est quelqu'un qui a un enfant trans et qui est perdu, ça peut que cette personne, à la fin de la discussion, aille mieux, se sent mieux. Déjà, on a la sensation d'avoir eu un impact positif, mais mesurer exactement à quel point cet impact va durer et profond, c'est compliqué. Et c'est pareil quand on donne des formations aussi. En fait, on sait ce qu'on a dit, on sait comment les gens ont réagi, mais on ne sait pas qu'est-ce que les gens vont retenir et comment les gens vont évoluer ensuite. En tout cas, nous, on a l'intention de leur avoir donné certaines clés et de peut-être les amener à évoluer ensuite par eux-mêmes. Parce que malheureusement, dans une heure de formation, on ne peut pas révolutionner toute une éducation. Et puis nous aussi, on est en train de se battre contre une grosse machine qui va dans l'autre sens en même temps, en fait. Parce que pendant que nous, on raconte que c'est pas grave d'être trans, il y a tout un tas de représentations néfastes à la télé et qui ont beaucoup plus d'audience que ce que nous, on peut faire. Voilà, mais à côté de ça, on n'est pas seul non plus. Il y a plein d'autres gens qui font plein d'autres choses sur d'autres formats.
Merci, c'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, là, clairement, on se rejoint sur ça, c'est que l'impact, il est qualitatif plus que quantitatif. Et donc, du coup, quand je dis dérisoire, ça peut paraître négatif, mais on prend l'image du colibri, on le fait à notre mesure. On est persuadé que c'est la somme des colibris qui fera changer les choses, même si c'est peut-être une utopie ou une... Mais au final, on s'en fout. Même ça, on s'en fout. En fait, nous, ce qui nous porte individuellement au sein de l'asso, c'est déjà de se faire plaisir dans ce qu'on fait, quoi. Et de se retrouver et d'y croire. Et c'est ça qu'on transmet, en fait. C'est notre plaisir à faire les choses, notre plaisir, notre passion à transmettre les choses et à croire à ce qu'on fait, à l'histoire qu'on raconte. Et quand les gens, ils sont contents de l'histoire que l'on raconte et qu'ils s'y retrouvent, et ben du coup c'est déjà pour nous on est contents, en fait. Voilà. Mais donc l'impact il est très difficilement mesurable, quoi.
Vous avez travaillé sur les termes au début de votre association. Quelle est pour vous aujourd'hui l'urgence?
Alors les termes, je sais pas si c'est le plus urgent, que tout le monde soit d'accord sur les mêmes mots. Après, moi ce que je trouve urgent, c'est qu'on laisse les personnes trans tranquilles, qu'on arrête de les tabasser, qu'on arrête de les assassiner, qu'on les laisse tranquilles aussi dans la vie de tous les jours, sans les agresser verbalement. Et puis moi, à titre personnel, je suis pas tant sujet à des choses à cette échelle-là, mais plutôt à des micro-agressions, tout le temps. Et donc en fait, peut-être que utiliser tel terme plutôt que tel autre terme, ça va pas révolutionner la vie, mais en fait, plus on est renseigné sur ces sujets-là, moins on va faire ce que j'appelle des micro-agressions, qui sont très banalisées. Et en fait, moi, ce que je vais vivre comme un moment très violent, les personnes autour de moi qui sont pas concernées et pas éduquées vont avoir aucune idée de ce qui peut être en train de se passer.
Qu'est-ce que c'est qu'une micro-agression pour toi ?
Ça peut être plein de choses différentes, mais...
C'est quoi un exemple ? Parce que moi, j'en sais rien.
Je sais pas si ça rentre dans une micro-agression. Je vais juste donner des exemples, des trucs que je peux vivre qui peuvent paraître anodins et que moi, me font violence. Une fois dans le bus, il y a un groupe de mecs qui sont moqués de moi en m'appelant lesbienne. Alors que je suis pas lesbienne et que si je l'étais, ce serait pas grave. Et personne n'a réagi, moi non plus d'ailleurs, je savais pas trop quoi faire, je suis sortie du bus au bout d'un moment, c'était il y a pas très longtemps ça. Sinon, une fois, il y a aussi pas très longtemps, j'étais en terrasse à un bar et il y a quelqu'un qui est venu me parler pour me demander pourquoi j'étais comme j'étais et de me justifier, et qui m'a dit j'ai plein de questions, alors que moi j'étais vraiment pas venue pour faire un cours. Alors voilà qui je suis. Je me suis énervée, en fait. Je lui ai dit, mais laisse-moi tranquille, quoi. Je t'ai pas donné la permission de me poser des questions intrusives. Un truc qui revient beaucoup dans les trucs de la vie de tous les jours qu'on entend beaucoup, c'est on nous demande ce qu'on a dans le pantalon, alors que ça se fait pas du tout. Et puis après, un truc évident qui est constant, c'est le mégenrage. C'est quand moi c'est il par exemple, et quand on dit elle en parlant de moi, ça me fait vraiment violence. Ça, d'une personne à l'autre, c'est pas la même chose. Il y a des personnes qui vont le vivre différemment. Moi, je sais que j'ai des périodes où c'est très difficile pour moi. J'utilise cette image-là, c'est comme si on balançait un petit caillou au visage, toujours au même endroit. Alors la première fois, c'est un peu chiant, mais la millième fois, ça fait vraiment mal. Et c'est pour ça que j'ai des périodes où ça me touche plus que d'autres. Parce que, en fait, même si tu te reprends après, ce que tu as dit là, c'est que tu m'as regardée et que tu as décidé que j'étais une femme. Et ça me fait violence parce que je ne suis pas. Bon, alors bien sûr, c'est toujours mieux de s'excuser que de rien faire. Mais enfin, voilà, moi, j'en profite pour faire une petite parenthèse de si jamais vous mégenrez quelqu'un, la meilleure chose à faire, c'est de se corriger, s'excuser rapidement et de passer à autre chose. Parce que plus vous parlez, plus vous avez de chances de heurter la personne d'autres façons et de dire des choses maladroites.
Comment comptez-vous faire évoluer votre action dans les années à venir ?
Alors, nous, il y a des choses qui vont continuer parce que ça ne s'arrête pas. Il y a toujours des personnes en questionnement, il y a toujours des familles perdues, il y a toujours des endroits qui ne sont pas formés ou qui ont besoin d'être reformés parce que la première fois, c'était bien, mais ce n'était peut-être pas suffisant ou il faut faire un rappel, ce n'est pas les mêmes équipes. Enfin bon, bref. Du coup, il y a des choses qui vont continuer, mais il y a des choses qui vont évoluer aussi. Je sais que, par exemple, une chose qui nous tient à cœur et qu'on veut vraiment faire dans le futur, ce serait permettre à des personnes trans d'aller à la piscine. Parce que, en fait, aller à la piscine, quand on rentre pas dans la norme, que ce soit d'une façon ou d'une autre, hein, que si on est gros, si on est voilé, peu importe la façon dont on rentre pas dans la norme, c'est compliqué. C'est potentiellement vivre des violences, avoir des questions. Si les vestiaires sont genrés quand on est une personne trans, c'est compliqué. Si jamais visuellement on rentre pas ni dans ce que les gens considèrent être un homme ni dans ce que les gens considèrent être une femme, potentiellement les gens vont nous rejeter qu'on aille d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que nous on aimerait créer par exemple des créneaux qui seraient réservés aux personnes trans et éventuellement à leurs alliés. Bon, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir sur quel format exactement ça prendrait, mais je sais que c'est une des choses qu'on veut faire dans le futur.
Nous on a plein d'idées. On veut faire plein de choses. Bon, déjà, on est à la recherche d'un lieu plus grand parce qu'on est limité justement sur l'accueil des professionnels, partage du lieu, à cause de la taille de notre lieu. C'est un projet en soi de trouver un lieu et de déménager potentiellement notre atelier. Après, on aimerait bien, pourquoi pas, évoluer vers de la formation professionnelle, former les professionnels. Parce que malgré tout le monde a entendu parler de l'énergie solaire, mais en fait, il y a tellement peu d'artisans qui sont formés pour. Je vous donne un exemple. Par exemple, au 1er juillet, les chaudières fuel sont interdites à la pose. Et pourtant, on a deux apprentis dans notre entreprise. Ils sont en apprenti au CFA à Saint-Benoît à Poitiers. Et 90% de leur temps, ils ont appris à poser une chaudière fuel pendant 2 ans. Donc il y a un décalage réel entre la formation exercée et quand on leur pose la question, et ben, du coup ils disent oui, c'est le cadre de l'éducation nationale. Bref, en fait on voit l'inertie qu'il y a sur l'institution de la formation pour les artisans. Et du coup on voudrait pourquoi pas s'orienter vers ça à moyen long terme.
Est-ce que vous avez le sentiment que les causes que vous défendez progressent dans notre société ?
C'est les deux en même temps, c'est compliqué. Parce que, effectivement, on en parle de plus en plus. Alors, du coup, on nous dit souvent que c'est la mode. Mais moi, je ne crois pas que ce soit la mode. C'est juste qu'on en parle plus, effectivement. Mais les personnes trans ont toujours existé. Maintenant, elles sont plus assumées. C'est vraiment ça, la différence principale. Mais si on prend la télé, la plupart des émissions qui parlent des personnes trans, ce n'est pas des personnes trans qui les ont faites. Et donc, ça parle de façon soit très maladroite, soit carrément nocive. Du coup, en fait, c'est vraiment à la fois, on a beaucoup de personnes qui s'assument plus, on a beaucoup plus de personnes qui commencent à se renseigner, des milieux qui sont de plus en plus chouettes, et en même temps, les agressions, il y en a de plus en plus. Enfin, c'est vraiment... Mais là, on peut prendre l'exemple du féminisme en général. On a des avancées au niveau du féminisme et en même temps le droit à l'avortement aux États-Unis qui recule en même temps. Et du coup, c'est vraiment très complexe. Moi, je sais que je vois dans certains collèges des choses... Il y a des personnes qui sont trans plus ouvertement que nous, on pouvait l'être. Moi, quand j'étais au collège, personne n'était trans, alors qu'en fait, bon, on l'était déjà, mais on n'était pas... On ne s'assumait pas parce qu'on ne pouvait pas. Et je vois qu'il y a plus de collèges où c'est possible. Et puis, en même temps, les statistiques des personnes trans assassinées ne descendent pas du tout, quoi. Mais ouais, c'est que du coup, ça crée les deux en même temps. Ça crée à la fois des gens qui nous soutiennent et des gens qui réagissent dans l'autre sens.
Ah, okay. Le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais autant parlé des énergies renouvelables. On n'a jamais autant parlé de l'artisanat. Ça devient à la mode, pour le coup, à la mode, de devenir artisan. Mais paradoxalement, en fait, notre impact écologique, il est de pire en pire et il est de manière exponentielle, en fait. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a vraiment un décalage entre l'histoire qu'on nous raconte et la réalité du terrain, quoi.
Comment on peut changer ça ?
Oula ! on essaye, finalement, même si notre impact est dérisoire avec l'Atelier du Soleil et du Vent, c'est, moi, je pense que... On raconte une autre histoire et qu'on est des êtres d'histoire. On croit plus aux histoires qu'on se raconte qu'à la réalité tangible et que, en fait, par nos petites interventions, on raconte des histoires et c'est en racontant des histoires différentes qu'on arrive, en fait, finalement, à changer le monde. Si je prends l'exemple du catholicisme, c'est au départ une histoire et ça a fait bouger des millions de personnes. Alors moi, j'ai pas du tout cette ambition et même plutôt l'inverse parce que ça s'est fait dans la violence. Mais je pense que je suis de plus en plus persuadé à ça. C'est à nous de raconter une histoire qui crée de la joie, qui crée de l'amour, qui crée du partage et qui fera adhérer les gens, quoi.
Mais comment on lutte contre ça en faisant tout ce qu'on fait et puis avec plein d'autres façons aussi en proposant d'autres discours que les discours majoritaires, en proposant nos propres visions pour qu'on soit compris et écouté.
Univox.
Cet épisode spécial d'Univox touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jonathan et Florent d'avoir accepté cette rencontre. Cette série sur l'entrepreneuriat vous a été proposée avec la complicité d'AnimaFac et Pépite France. Et cette émission a été réalisée par Radio Pulsar pour le réseau Radio Campus France. Bonne journée sur nos ondes.